Germaine, c'est le troisième entretien. Nous avions opéré un petit parcours du DIWA selon vos souvenirs de DI.
Je pense à la tentative de fête que nous avons fait ici, grâce à Jean-Pierre Rambaud, maire de DI. Ça devait être 1789, c'était le centenaire. Voilà, et je me rappelle Jean-Pierre Rambaud, maire de DI, avec son bonnet phrygien. Et sa gentillesse. Et moi déjà, j'étais pas dans le jeu, dans la joie, dans la commémoration. Je trouvais que c'était une façon de. Il y avait une telle réalité parce qu'il y avait la menace de fermeture de la maternité, donc de l'hôpital. Et moi, ça, tous les amusements ne m'amusaient pas. Je trouvais que les gens se bouchaient les yeux. Mais Jean-Pierre, c'est pas pareil. Jean-Pierre était profondément républicain. Maintenant, je réalise le symbolisme et surtout la pensée de notre mère républicain, le premier depuis le Front populaire. Premier maire républicain. Véritablement, sincèrement républicain, c'est Jean-Pierre Rambaud, instituteur, directeur du centre scolaire primaire, conseiller général réélu 3 fois. Jean-Pierre Rambaud, et on a même planté un arbre de la liberté au square de la comtesse de Die. Depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet arbre, mais il mériterait une plaque de commémoration, parce qu'il y avait énormément de monde, de républicains qui se souvenaient de l'ancien régime et du nouveau régime, c'est-à-dire la liberté, la citoyenneté en 1789, déclaration des droits de l'homme, etc. Et sur la place de la République actuellement, le premier qui a déclaré ville de Die républicaine, c'est Yves Farge, commissaire de la République. Moi, j'y étais pas, c'était mon mari qui me l'a raconté, qui avait 17 ans, qui était dans la résistance. Et les Diwa étaient fiers, confortés. Qu'il y ait Yves Farge de Paris qui était venu déclarer la République à Die qui était sous l'État français. Et c'est là que le cinéaste amateur Élie Brochier, maire du Front populaire, a filmé les combattants qu'il y avait à Rosas, qui avait pris 3 petits canons aux Allemands à l'accrochage des gorges de, je sais plus, enfin, du côté de Rosas, du côté de la Motte Chalancon, par là-bas, il y a eu un accrochage très sévère. Et les maquisards, qui étaient un peu de tous les maquis, ont réussi, et on voyait traverser la place de la République les 3 canons, avec les soldats qui étaient habillés un peu comme c'était la résistance. Et c'était un 16 mm. Et on voyait un petit chien qui était du côté du restaurant actuel. Un petit chien, il y avait la foule des deux côtés. Et un petit chien prend l'idée de traverser juste au moment où les gars marchaient au pas, mais en 16 mm, c'était amusant. Et les canons. Alors il fait demi-tour, et puis tout à coup, il lui prend vraiment envie de traverser. Il fait quelques mètres de plus, et puis les canons, les petits canons arrivaient. Enfin, c'était un moment d'étendre, de sourire de ce petit chien qui reculait devant les petits canons. C'était des petits canons, vraiment. Mais c'était la France qui renaît, l'espoir qui renaît.
Marcel Bougnot, quelle trace vous a-t-il laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé, Marcel Bougnot, pour dire?
C'est un homme très sûr de lui, qui avait son clan de ses clubs de soutien. Et moi, personnellement, je n'ai pas de bons souvenirs d'un démocrate. Déjà à la colonie de vacances, mon fils, Eddy, qui venait de perdre sa mère, mon fils adoptif, n'a pas été traité comme il aurait fallu. Il avait 6 ans. Il se prenait au jeu de son pouvoir de directeur, de son pouvoir de chef de la colo, de son pouvoir. Franchement, j'ai pas gardé le souvenir d'un homme bienveillant avec sa population, comme était M. Vérillon, à qui il a succédé. M. Vérillon était un homme d'une grande compassion humaine.
Au début des années 2000, il y a la transhumance qui a commencé à s'organiser et qui perdure. La transhumance, la fête de la transhumance.
Ah, oui.
Il y a ça, il y a le festival du pied qui s'est transformé petit à petit en festival Est-Ouest. Il y existait d'autres festivités au début des années 2000.
La fête de Saint-Marcel. Essentiellement la fête de Saint-Marcel, ça c'était ancré dans c'était bien Saint-Marcel qui faisait la fête, qui savait faire le défilé. C'était la surprise à chaque fois, la vraie surprise et dans la préparation au garage Peugeot là-bas, et c'était la joie juvénile. Moi, j'ai beaucoup, parce qu'il y avait d'abord la clique qui animait, il y avait le chef au nez qui était un monsieur bien à sa place, comme était son père avant lui, qui avait été combattant de la résistance, monsieur au nez, le père. Et le fils, quand il sonnait, parce qu'il avait le clairon, et il faisait démarrer la clique, et je vous assure, c'était martial, mais avec c'était pas martial dans les gens qui avaient l'habitude, les gens du quartier. C'était le signal de la joie, de la fête, de la fête des enfants qui faisaient la queue pour avoir des lampions, vous savez. C'était une animation naturelle et débonnaire. À la fête Saint-Marcel, ça a été quelque chose de... Et puis, aucune vulgarité, quelque chose de bien puisant ces thèmes dans l'actualité, mais toujours avec le sourire Saint-Marcel. C'est-à-dire qu'il y avait les costumes collectionnés par Lily Gilloin. Le thème était patronné par Lily Gilloin, qui était vraiment quelqu'un de très grand. On lui rend pas assez, on lui fait pas assez sa fête. On devrait lui faire sa fête à ce monsieur qui bénévolement a toujours été. C'était une forme de culture, d'authentique culture populaire. Monsieur, je crois qu'il s'appelait Gabriel, on l'appelait Lily Gilloin.
Et que faisait-il, ce monsieur Gilloin?
Il était ancien ouvrier sidérurgique à Paris, et puis un jour il est venu, je ne sais pas si c'est pendant le Front Populaire ou après, ou pendant la guerre, peut-être pendant l'État français. Il a hérité un café d'une tante. Et puis, il avait hérité peut-être aussi de ses parents un petit café. Ils étaient jumeaux. Donc, il a fait faire des travaux. Et moi, je me souviens, il était très grand et très... très c'était une personnalité respectable. Par ses silences, jamais, jamais... Pourtant, il y avait des gens qui se laissaient aller, surtout de ceux qui avaient l'habitude d'abuser des canons. Mais M. Gilloin était un grand monsieur, croyez-moi, bien à sa place au Café du Commerce. Et un grand supporter des rugbyman et des c'était son sport préféré, mais comme la majorité était pour le foot, il a été protecteur aussi des footballeurs et des jeunes footballeurs. Moi, je suis fière d'avoir connu Monsieur Gilloin.
D'ailleurs, le sport a dit, il y a actuellement le stade de foot, le stade de rugby, il y a une salle omnisport aussi. Qu'est-ce qui existait ?
C'était le rugby. C'était le rugby surtout. Mais je ne peux pas vous répondre parce que je n'y étais pas et que mon mari n'était pas rugbyman ni footballeur. Mon mari pratiquait avec le professeur de gymnastique, comme on disait à l'époque, monsieur Didier, qui leur a appris l'hébertisme. L'hébertisme, c'est apprendre la musculature, la respiration, le self-control. Et mon mari adorait ça, il avait 17 ans, et ça lui a rendu service toute sa vie, au point de vue santé. Ça, c'était monsieur Didier, et puis la natation. Quand on a construit, la municipalité de M. Vérillon a construit la piscine municipale, piscine olympique. C'était affiché à l'entrée de Die. Je ne sais pas, il y avait une histoire de dimension. Et donc, c'était une ville très sympathique. Quand je suis arrivée en 1963, croyez-moi, j'ai été surprise, je venais du côté du col de Cabre, venant de Grasse. Et j'ai été surprise à la fois du côté provençal, parce qu'on voit les toits quand on arrive. On voit les toits de style provençal. Et puis la bonhomie. La bonhomie, le côté ancien où il y avait encore des tombereaux qui passaient tranquilles. Il y avait aussi des charrois de bois qui bloquaient parce que ça passait dans tous les sens. Personne ne s'énervait. Il y avait le camion qui essayait, avec ses fûts de bois très longs, qui essayait de passer dans les... Et c'était bonhomme, c'était le spectacle, en tout bien, tout honneur. Les gendarmes, on ne les voyait jamais. Je vous assure que ça me fait rire parce que je constate, je l'ai vécu, j'étais jeune femme et je venais de la Côte d'Azur, mais j'étais dans un monde nouveau, dans un monde où les gens ne se prenaient pas au sérieux. Ils étaient, même le mot « DIY », ils ne le disaient même pas. « On est d'ici », ils disaient. Et ça faisait du bien. Parce que déjà, on voyait monter sur la côte, à Lyon, parce que je le vaux bien. Vous savez, tous ces thèmes de... Voilà. Mais jamais personne n'a osé, ni les touristes. Il n'y en avait pas, des touristes. Il y avait quelques familles qui venaient en vacances traditionnellement. Mais jamais de... En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu de mépris, comme on avait l'habitude de dire, c'est un paysan, c'est un bouseux. Non, ici, à Die, il y avait un respect, parce que c'était un peuple républicain.
La voiture, la circulation des voitures, d'ailleurs, ça c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Mais comment circulaient les véhicules ? Il y a, à l'époque où vous êtes arrivé, par exemple dans les années 60, il y avait la rue Camille Buffardel qui était en fait la voie principale.
Je me rappelle, il y a eu un conseil municipal de gauche, c'était le PSU. Donc il y avait des jeunes, des profs surtout, Et puis qui se sont fait l'écho des habitants qui étaient mécontents de cette circulation de pagaille où dans la rue Émile Laurence, dans la rue Bufferdel, c'était ça montait, ça descend, ça coinçait, ça s'engueulait. Toujours bon enfant, mais enfin ça foutait le bouzou. Et je me rappelle que un monsieur, je me rappelle plus comment il était, professeur. Et c'était un Diwa d'origine, et qui a proposé le sens unique. Parce qu'à la montée de l'évêché, il y avait encore la montée impossible de monter d'un seul coup, parce qu'il y avait un angle droit à un moment donné. Alors là, ils ont fait des travaux, ils ont fait la montée qui est un coupe-gorge. Arrivé en bas, c'est un coupe-gorge. Enfin bon, le sens unique a été une chose très bien réalisée. Et par la suite, M. Rambaud-Maire avait eu l'idée très démocratique d'interroger les lycéens sur comment vous voyez la circulation, la ville de Die, l'avenir de la ville de Die. Alors, il y a eu un très beau travail fait par les élèves de seconde et de terminale, y compris une déviation sous le cimetière qui aurait empêché que toute la circulation montante venant de Valence s'agglutine à Saint-Pierre, et puis voilà quoi. Et il semble que des intérêts privés, une ou deux maisons qu'il y avait sous le cimetière, ont été déterminantes, et on ne l'a jamais fait. On n'a jamais agrandi, parce qu'il y avait le passage devant le groupe scolaire Chabestan, qui était problématique et dangereux. Il y a eu des propositions formidables. Jean-Louis Simon, qui était conseiller municipal, avait proposé de faire un passage souterrain qui existait déjà pour les élèves à pied et les parents du stade de Chabestan à la placette. C'était des anciens, ça existe toujours, ce sont des passages du temps où il y avait des tanneries. Ça a été fermé par une porte. Par la suite, sous la municipalité de M. Vérillon, ils ont fait des douches, des toilettes, mais jamais ce passage qui aurait été formidable, en toute sécurité, les enfants auraient pris un escalier, puis voilà. Bon. Mais c'était l'opposition communiste, et ça n'a jamais plu à la majorité socialiste.
La place du Mazel, qu'est-ce qui existait sur cette place? Est-ce qu'il y avait des commerces? On voit par exemple des murs où sont tracés café, il y avait des activités. Et voire même cette école du centre-ville aussi, qui a subi des dommages lors de bombardements.
Mon mari me disait que il avait été à l'école maternelle. Actuellement, il y a un platane qui a été respecté. Et sous la municipalité de Madame Bizoire, ils ont fait une dalle qui a assez réussi avec des pavés. Bon, et ça, c'était le côté école maternelle. C'était un groupe scolaire sur un ancien hôpital des pères, des moines ou des je ne sais pas quoi. Mais ça, je n'ai pas connu. Et donc, ce qu'on appelait par la suite, au moment du Front populaire, le grand bâtiment sur deux étages a servi d'hôpital. Donc ça, c'était avant le siècle XXe. Et après, ça s'est transformé en ancien cinéma. D'ailleurs, c'est toujours... Bon, c'était longtemps... c'était la salle municipale pour les grandes réunions. Et donc, c'était le cinéma... Et puis, ça a servi de salle pour les réunions politiques, les réunions de fêtes. L'Union des vieux de France faisait les réunions pour la galette des rois. Et je faisais partie des femmes françaises qui faisaient la fête au troisième âge. Et je vous assure que c'était, j'ai entendu chanter des chanteuses, dont une qui s'appelait la Nisette et qui chantait la chanson de la Clairette, avec une jolie petite voix de femme qui devait avoir 85 ans. Et puis j'entendais l'ancien dentiste Arnaud chanter « Salut à toi, soldat du 19e », enfin des chansons républicaines. Et pour moi, c'était nouveau et c'était émouvant. Émouvant de voir un peuple républicain sur la fin de la vie, mais boire la clairette et se souhaiter la santé, c'était vrai. Les gens étaient vrais. Ouais.
La place du Mazel, avant d'être un parking, c'était un peu un terrain.
Il y avait des maisons. Des maisons, plus ou moins de l'époque, je ne sais plus. Pas des très anciennes maisons. Maison apparemment qui s'était écroulée puis qu'on a reconstruit. Enfin, il y avait la famille Aumé, qui avait une belle maison là. Elle était en pierre de taille jusqu'au premier étage, c'est vous dire que ça remonte la construction. Et donc, quand la famille, petit à petit, les gens disparaissaient, et cette maison, la mairie l'avait achetée. Et les associations féminines et les autres avaient besoin de locaux, d'autant plus pour le troisième âge. Ils étaient obligés de monter à la maison Reynaud, où on a fait le musée ensuite, où il y avait la bibliothèque municipale. Il fallait monter les étages. Or moi, qui était nouvelle à Die, je me disais, là, on veut, la mairie a acheté pour démolir cette maison, alors qu'elle est de plein pied, elle est centrale. Pourquoi ne pas la restaurer? Mais c'était M. Bognot et il n'y a même pas eu de possibilité de discuter avec lui.
D'ailleurs, c'était une maison qui était prédestinée aux retraités, oui. Qui se situait juste derrière la pharmacie et qui a été rasée, oui. Alors qu'elle était pas, elle était loin d'être en ruine. Et il y avait, je sais qu'il y a eu beaucoup de dissensions à ce moment-là, oulala. Parce que les gens étaient étonnés d'avoir détruit ou démoli un bâtiment qui était en bon état, en somme, pour faire une placette.
Disiez, avec ce maire, on pouvait pas parler. Quand on est allé la première fois avec la gynécologue et avec la sage-femme, avec deux sages-femmes. Il nous a traité d'hystériques parce qu'on lui disait que on tremblait pour l'avenir de la maternité et qu'on souhaitait que cette maison ne soit pas démolie puisqu'elle appartenait à la mairie. Et c'était ce qu'il avait décidé lui et sa majorité de béni oui. Enfin bon, qu'il repose en paix, c'est tout ce que j'ai à dire.
Est-ce que pour vous, il y a eu un dommage d'établir des parkings en centre-ville? Est-ce que ça a enlevé des choses ou des bases sociales quelque part?
C'est un vaste problème. Je considère que, à part déplorer le manque de jardin, le manque de squares pour les personnes âgées, je disais toujours à la municipalité, quand on me donnait le droit de parler, que les gens vieillissaient et que pourquoi ne pas construire une piscine chauffée? On a poussé les hauts cris en haut lieu en disant que si je rêvais que c'était pas une municipalité de Cannes ou de Nice. Et cependant, la piscine, à part 2 mois, quand le temps est beau, enfin bon. Et donc, et pour les, pareil, il y a des maisons qui se sont quasiment écroulées, alors que à l'époque, la municipalité aurait dû faire un plan d'achat avec les héritiers etc. Et faire ce qui manquait le plus à Die, c'est-à-dire des petits jardins, des petits coins de rue. Je pensais aux personnes âgées, aux mamans avec la poussette, tout ça. Puisque le coin de l'évêché qui était parfait, en toute sécurité, c'est là quand ils ont amélioré la montée, du coup les automobilistes passaient. Et que à ce moment-là, les mères de famille n'étaient pas en toute... Alors ils ont fait un petit muret, mais c'était pas ce qui était souhaitable pour la sécurité des personnes âgées et des mères de famille.
Les véhicules qui circulaient étaient nombreux ou comme, c'était quel débit quelque, en quelque sorte?
Non, c'était paisible. Ce qui s'est accru paradoxalement, ce sont les poids lourds qui ont passé devant Chabestan et à Saint-Pierre. Et c'est eux qui ont hérité du bruit, de la pollution. Ça, c'était dommageable, vraiment. Et puis au coin de Buffardel, là, vous vous rendez compte, Buffardel, une maison si importante, en expédition, etc. Et c'était le passage. Puis alors au coin là-bas, où il y avait le jardin Bégout, un coin angle droit. Mais c'était une aberration, croyez-moi, une aberration. La ville de Die, c'était difficile, mais il y avait des propositions de déviation du côté de Piscine pour contourner par les remparts et franchir la Méros et atterrir sur la route d'Ormeillé. Mais apparemment... Il y avait le monde agricole qui s'opposait à ça, parce qu'il y avait des propriétés qui auraient été... Enfin, je n'étais pas dans les débats, et petit à petit, je me suis cantonnée à mon action auprès des enfants, et surtout la sauvegarde de la maternité et de l'hôpital.
Je reviens au commerce toujours en centre-ville. La population venait de la ville proprement dite, mais aussi des villages alentours. Comment venait-elle à Die? Comment procédait-elle, par exemple, pour stationner un véhicule à tel endroit? Est-ce qu'il y avait du déplacement possible, facilité? Vous vous disiez quand même qu'il y avait une grosse circulation, mais comment s'était concilié tout ça?
Eh bien, les gens de la campagne avaient leur affinité. Il y avait des gens qui allaient du côté de la laiterie à Saint-Pierre. Alors, toute la rue, comment ça s'appelle à Saint-Pierre, c'est Félix Germain.
Non, Félix Germain, c'est la rue qui descend vers la mairie.
Alors, l'autre, celle devant... le bar de l'étape jusqu'au bout, là, je sais pas comment ça s'appelle cette rue là qui descend là maintenant.
Ah, c'est un boulevard maintenant,
oui,
hein,
voilà. Boulevard, je sais pas. Là il y avait des carrioles. Moi j'ai connu des carrioles avec des chevaux. Et très vite il y a eu des voitures, des camionnettes et tout ça. Les gens posaient là, puis ils arrivaient à pied avec leur cabas. Et puis la foire, c'était important culturellement. Et voilà, il y avait des commerçants ambulants qui venaient. Il y en avait un qui s'est allé à la comtesse, là-bas en bas, et qui vendait tous les brodequins en cuir. Il y avait les canadiennes, il y avait pour les chevaux, enfin, tout ce qui est fourniture de cuir dans le monde agricole. C'était un commerçant de bourg de péage, très connu, et il faisait aussi les cloches, les sonailles. Donc c'était un étalage très pittoresque. Il se mettait devant l'ancienne mairie, voilà. Et les paysans tenaient à beaucoup, il y avait des marchands de robes, de robes d'hiver, parce qu'il y avait trois foires, la foire du printemps, la foire de la Toussaint. C'était...
Qu'est-ce qu'on y voyait dans ces foires? Qu'est-ce qu'on y trouvait?
Eh bien, des fournitures pour les ruraux, c'est-à-dire les tabliers pour l'école des enfants, les nouveautés, comme on disait à l'époque, pour les dames, c'est-à-dire les jupes plissées, les foulards, les chapeaux encore. Mon mari m'aura raconté que sa grand-mère vendait des sabots. Moi, ça me fait rire parce que, vous savez, je suis arrivée en 63 et c'était comme si j'étais venue juste après la guerre de 14. Ça n'avait pas changé. Les gens étaient non pas folkloriques, mais ils étaient bien dans la tradition parce que le pouvoir d'achat est très modeste par ici. Il a fallu, vous savez, l'agneau se vendait très mal. Et puis il y avait déjà les gestes vétérinaires qui coûtaient très cher. Il y avait la lavande qui, tout à coup, le gouvernement a bloqué le prix pour favoriser les parfumeurs de grâce. Alors les producteurs de lavande à Marignac, à Saint-Julien-en-Quin, ils n'ont plus vu leur pouvoir d'achat augmenter, alors que le travail... Non, c'est... Ici, ça s'est vu vraiment, la politique agricole nationale, pas du tout favorable aux petits producteurs, aux régions, comme le dit Oua, c'est-à-dire à mi-chemin entre la Provence, sèche, calcaire, et le froid du Vercors. C'est une région où les gens se sont accrochés, mais qui n'était pas généreuse. C'était leur cœur qui était généreux.
Je reviens encore sur ces rues comme celle d'Émile Laurent, la rue de l'Armellerie, et puis la rue principale Camille Buffardel. On peut quand même voir énormément d'anciennes vitrines de commerce qui sont devenues des logements aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on y trouvait dans toute cette petite vitrine? C'était une activité familiale qui vivait l'immeuble aussi.
Il y avait à Saint-Pierre, il y avait Chalabou. À Monsieur Chalabou, c'était vraiment la nouveauté de la mode pour les femmes et pour les messieurs. Il y avait vraiment une qualité, vraiment. Et c'était Monsieur Chalabou était quelqu'un qui était conseiller municipal. C'était une famille protestante, tout ce qu'il y a de plus. Et son établissement était magnifique. Et il correspondait au square où il y avait l'arbre de la liberté, le peuplier qui avait été planté en 1800, je ne sais plus, et qui a duré longtemps, puis après, soi-disant, il menaçait. Et puis, il y avait Paris Mode, Paris Mode dans la rue Buffardel, c'était les chapeaux, et ça aussi, c'était important, c'était la mode de Paris. Et donc la propriétaire, Madame Peter, allait acheter où elle recevait des visiteurs qui présentaient la mode des chapeaux, car toutes les femmes portaient des chapeaux parmi les catholiques pour aller à la messe, mais aussi les dames, les bourgeoises portaient un chapeau pour circuler dandy, pour aller chez le médecin, pour se rencontrer parce qu'il y avait des salons. Il y avait madame le baron de Fauconnet qui a laissé sa propriété sur la rue d'Ormeillet à la famille Audra. C'était le baron et la baronne de Fauconnet qui sont décédés sans héritier. Eh bien, Madame de Fauconnet, quand elle venait visiter Madame Peter, elle lui envoyait un mot avec son cocher, lui disant « Je viendrai pour le thé à 13h ou 14h, à 15h. » Non, le thé, c'est « tea for two »,
c'est
17h. Et donc, elle arrivait avec un petit paquet de petits fours. Et c'était la joie des gens, parce que Madame de Fauconnet arrivait avec son chauffeur et allait visiter la mode de Paris. La dame, c'était Madame Louise Peter, en l'occurrence la tante de mon mari, qui faisait sourire. Elle a fini très originale, et quand on dit la tante Peter, ça nous fait toujours sourire. Elle se croyait toujours, elle se croyait toujours 30 ans avant, du temps de sa jeunesse, où elle ouvrait le bal. Un jour, elle avait 80 ans, et elle me dit, il n'y a pas l'année dernière encore, j'ai ouvert le bal avec Fernand Richaud. Ce Fernand Richaud était conseiller d'arrondissement. Ils étaient déjà vieux. C'était merveilleux de constater une vieille dame toujours impeccable qui me dit naturellement, mais l'année dernière, j'ai ouvert le bal. Ça, c'était un terme du 19e siècle. Une fille, une femme, une bourgeoise qui ouvrait le bal avec un conseiller, vous pensez? Ça me fait toujours rire.
C'était quel type d'orchestre qui jouait à ce moment-là?
Eh bien, c'était... Ça, vous me posez une question. C'était des harmonies municipales. Il y avait monsieur... comment il s'appelait? Brunel. Le père Brunel, qui jouait je me rappelle pas très bien. Il y avait avec les Hautes-Alpes, où ils sont très musiciens, la Mure, Mainz et tout ça, il y avait de temps en temps des échanges musiciens. Et puis au moment du Front populaire, il y avait un accordéoniste qui s'appelait Bonsignour. Et mon mari me parlait, c'était un virtuose de l'accordéon. Et pendant le Front populaire, c'était la musette, la valse à Dédé de Montmartre et tout ça. Et les gens, le peuple dansait, le peuple était heureux, était conscient que c'était une musique du peuple. Contrairement aux quadrilles des lanciers et tous ces flonflons pour les Parisiens et tout ça. Non, là, c'était vraiment le qu'est-ce qui se dégote là, la mazurka et tous ces espèces de mazurka, la mazurka, la valse, la java. La java, d'ailleurs, c'est devenu une expression, faire la java.
Et ce n'était pas sonorisé à l'époque.
Oh non.
Mais ça n'empêchait pas l'animation.
Non, bien sûr, les gens étaient détendus. Et puis ils entendaient, c'était des jeunes. Et puis les vieux qui n'entendaient pas, ils se souvenaient. Et ils faisaient la galerie. Les vieux, les vieilles, et c'était vraiment des gens en fête, le peuple en fête, particulièrement à Die, à Saillant aussi. C'était des populations ouvrières. À Saillant, il y avait les soieries, ensuite il y a eu les usines, Neuf et tout ça. Et donc les gens, le samedi, ça commençait le samedi soir pour les... vous savez, les termes argotiques, le guinche. Le guinche, c'était le samedi, on allait danser la java avec la fille qu'on avait remarquée. ou le garçon qu'on avait reluqué.
Et ça se passait où?
Eh bien, ça, c'est dans la permission du papa et de la maman, surtout du papa. Eh bien, c'était à Saint-Pierre, sur la place, en plein jour. Voilà. Et puis, le Front populaire a été l'explosion de la permission populaire de la danse publique, des bals populaires, n'importe où, du moment qu'il y avait un accordéon, un harmonica, la caisse claire, parce qu'il n'y avait pas le jazz encore. Il y avait la caisse claire, il y avait toujours un qui chantait ou une qui chantait, qui tapait du pied, et puis voilà, c'était parti. Les gens avaient envie de danser, de s'exprimer. Alors, vous voyez, ils avaient la fête au cœur.
Quelles étaient ces boutiques à l'époque? Qu'est-ce qu'on y trouvait à l'intérieur?
Il y avait les quincailleries. Il y avait la quincaillerie Aubert, qui lui était plus, quand je l'ai connu, plus spécialisé dans la vaisselle pour les couples qui se mariaient, tout ça. Il y avait les toiles cirées, voilà. Et puis, c'était un grand magasin qui s'est agrandi même. Et après, il y a eu les jouets avec. Bon. Et puis, plus spécialisé dans l'agriculture, c'était l'établissement Tatin, où il y a maintenant les 10 sous. Alors là, chez Tatin, il y avait tous les clous, les marteaux, les machins. Et puis, tout ce qu'il faut pour l'agriculture, les fils de fer, les machins. C'est longtemps après qu'il y a eu le syndicat agricole qui fournissait, qui a commencé à fournir donc les charrues et tout ça. Ici, il y a eu la CUMA avec Adi et à Marignac surtout, et à Minglon. Voilà.
Ça, vous parliez du syndicat agricole qui était implanté à quel endroit à ce moment-là?
Au boulevard de...
C'est le boulevard Adolphe Ferrier.
C'est l'ancien maire de Die, que je n'ai pas connu, c'était au 19e siècle. Adolphe Ferrier, vous voyez, ça ne m'était pas ancré dans la mémoire. Oui, là, il y avait le premier syndicat, la coopérative laitière, c'était là. J'ai jamais su, je crois que c'était les gens apportaient leur lait la rue de la Résistance, là-bas, au quartier de la Chargière. Et puis ensuite, le camion venait de parce qu'ils ont fait un regroupement à Cré. C'est là-bas qu'il y avait la fabrication des yaourts, des tomes et tout ça. Voilà. J'en sais pas plus parce que le monde agricole, je l'ai connu sous une autre forme. C'est surtout le côté élevage. Oui, il y avait une droguerie aussi. Madame Olerbach, elle était très originale. Elle, c'était droguerie. Là où il y a le dentiste Catala, maintenant, et Claire. Donc là, il fallait descendre une marche et il y avait toutes sortes de teintures pour le linge, pour le deuil. On achetait la teinture noire, là. Et puis, il y avait les graines. C'était une grande dame alsacienne, certainement, au Léobac. Il y avait des magasins. On était attachés à des magasins. Il y avait un cordonnier qui avait une jambe de bois. Chautel, il s'appelait. Et puis il y avait l'épicerie. Alors des épiceries, il y en avait. Il y avait comment elle s'appelait, la famille Bégou, une petite épicerie à côté du cordonnier. Et puis après s'est ouvert la pharmacie. Vous savez, je suis fâchée avec les noms propres.
Dérin.
C'était avant des.
C'était bien avant.
Bien avant. Le laboratoire et la pharmacie.
Qui se trouvait dans la rue...
Oui, là, au même endroit.
Oui.
C'est un couple. Elle, c'était la famille Simon. C'est des gens qui ont créé... Ils étaient docteurs en analyse. Voilà, je connaissais que ces gens-là et je ne me rappelle pas le nom. Monsieur et madame, des gens charmants. Et voilà, après il y avait la presse, c'était les Rambaud. Monsieur Pierre Rambaud, un homme très, très comme il faut, très honorable. Ensuite son fils, c'était donc l'époque où la presse française... quotidienne et hebdomadaire a pris une importance. Tout le monde avait son Paris Match, tout le monde avait son... Voilà. Et c'était un carrefour important. Les gens sortaient, ils allaient chercher le journal, là. Et en face, l'Hôtel des Alpes. L'Hôtel des Alpes qui était tenu par une famille, aussi des gens vraiment... C'était des pros qui étaient des gens respectueux, honorables, qui faisaient leur métier comme le client s'attend à ce qu'on le respecte, qu'on respecte ses affaires personnelles, etc. Et là encore, je ne me rappelle plus du nom. Et... Après, il y a eu une succession de propriétaires à l'Hôtel des Alpes. Il y a aussi l'Hôtel Saint-Domingue qui avait une excellente réputation traditionnelle, cet hôtel. Les hôtels fonctionnaient beaucoup à Die. Il y avait l'hôtel de la Petite Auberge parce que il y avait les représentants de commerce qui séjournaient. Venant de Lyon, venant de Nice, venant de Marseille, ils séjournaient. Il y avait des vacanciers qui prenaient des vacances à l'hôtel, à la petite auberge, qui prenaient leur légitime ou des fois avec leur bon ami, surtout à la petite auberge. Et donc, c'était une ville bon enfant, c'était une ville... une ville qui avait un particularisme, une ville culturelle. Une culture qui ne s'affichait pas, mais les gens avaient un niveau culturel. C'est pourquoi j'ai toujours été choquée quand on a dit « c'est un village ». Ben non, ce n'était pas un village, ce n'était pas un bourg, c'est une petite ville avec un comportement citoyen.